Écoutez, alors je voudrais commencer par rappeler le contexte associatif dans lequel le projet de qualification pénale de violence conjugale a été élaboré. Un contexte associatif précis, pratique. C'était des questions au départ pratiques, ça s'est fait dans le cadre d'une association qui s'appelle le Relais de Sénart, en Seine-et-Marne, à l'occasion de conférences qui avaient été organisées, dans un cadre de colloque, et au moment du débat, on réfléchissait à haute voix, notamment sur l'articulation qui était difficile à faire pour les avocates, lorsque d'un côté, une avocate essaie de mener à bien l'accompagnement pour des poursuites pénale contre un homme violent, pendant que, en parallèle, le juge aux affaires familiales va moralement défaire et pratiquement défaire ce qui essaie de se construire de l'autre côté. C'était le point de départ. Donc je rappelle un peu comment ça s'était fait. On était parti d'un certain nombre. Ce n'était pas la seule contradiction qu'on avait pointée, mais c'était une des contradictions de départ. Et à partir de là, on avait imaginé constituer un groupe de travail pour essayer d'élaborer un délit spécifique, une qualification qui permettrait d'éviter, très pratiquement, de façon très pragmatique, d'éviter ces contradictions qui minaient un certain nombre de procédures. Voilà, c'est parti de là. Le Relais de Sénart, précisons, est à la fois accueil des femmes victimes de violences et en même temps assurent des actions de formation et des actions de recherche. Donc il y avait le double aspect. Donc il y a eu un groupe de travail qui avait été ouvert à un certain nombre de professionnels. Les uns et les unes sont venus assez régulièrement, d'autres personnes ont été invitées jusqu'au bout. Donc c'était quand même très ouvert. Voilà donc le contexte historique. Et de ce groupe de travail, nous avons essayé de définir un texte, en fait deux petits textes qui vont être proposés à partir de cette démarche. Alors avant de passer à l'argumentaire, je vous propose de lire donc le fruit de notre travail. La proposition retenue par le groupe s'énonce ainsi. La violence conjugale ou violence domestique est une violence de genre qui s'exerce au sein du couple et qui consiste en des agissements graves et ou réitérés portant atteinte à la dignité, à la santé, à l'intégrité physique, à l'intégrité psychique, à la santé mentale, aux libertés individuelles ou à l'exercice de l'autorité parentale, ayant pour objet ou pour effet de créer un état de faiblesse dont l'auteur abuse. Que cet auteur soit le conjoint ou l'ex-conjoint, le concubin ou l'ex-concubin, le paxé ou l'ex-paxé, le petit ami ou l'ex-petit ami. Le fait de commettre des violences sur sa conjointe ou ex-conjointe, alors on le redit autrement, concubine ou ex-concubine, paxé ou ex-paxé, petit ami ou ex-petit ami, par des agissements graves ou réitérés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de la victime, susceptible de porter atteinte à ses droits, sa dignité, son intégrité physique, psychique, sa santé mentale, ses libertés individuelles, ou son exercice de l'autorité parentale, de la placer en état de suggestion psychologique ou physique, ou d'altérer son jugement, est puni de temps. Voilà, c'est le qu'on n'a pas précisé sur le canton. C'est la base, c'est le texte de base. Alors, ce texte de base, Il repose sur un premier souci. Le premier souci, c'est de pouvoir nommer une réalité. Or, actuellement, d'une part, de nombreuses violences conjugales ne sont pas reconnues. D'autre part, c'est un terme générique ici, violence conjugale, hein. D'autre part, la plupart des violences qui sont reconnues ne sont pas pensées dans leur globalité. Donc finalement, elles sont reconnues partiellement. Et si elles sont reconnues partiellement, c'est peut-être parce qu'elles sont insuffisamment pensées, à commencer par les personnes qui essaient d'aider, et à commencer par la victime elle-même, qui va bien sûr pouvoir penser une partie de ces violences, mais qui va avoir du mal à voir l'ensemble de ces violences. Donc la première idée, c'est qu'il faut pouvoir penser des violences qui essaient de ne pas être pensées. Alors, je sais que je n'avais pas pu venir ce matin, j'ai su que avait été évoqué ce matin cette étrange minute de silence à la suite d'un assassinat. Je trouve que c'est quand même un exemple extraordinaire du refus de penser. Et que ce refus de penser se fasse dans le lieu même du législateur est un véritable défi. Et donc, je me suis dit qu'en fait, c'était une minute, non pas de silence, mais de loi du silence. Une minute de loi du silence. Une loi du silence de la pensée. Parce que c'est ça qui est particulier. Le fait, l'assassinat, il a été nommé, mais on a refusé de le penser. Et on a surtout refusé de le penser comme à la fois l'aboutissement et le dévoilement de toutes les violences qui étaient en amont, dont il est l'état maximum. Donc, puisqu'il y a un tel effort, une telle puissance dans le refus de penser, il faut donc que nous fassions des efforts pour penser cette spécificité qu'est la violence conjugale, pour essayer de la nommer en tant que telle. Mais puisque c'est une violence, la seule manière de la nommer, c'est de la qualifier. Parce qu'à quoi ça servirait de nommer une violence qui ne serait pas pénalement qualifiée? Ce serait une manière de nommer et de ne pas nommer. Si on nomme de la violence, il faut qu'il y ait une qualification pénale. Ou alors, ça voudrait dire qu'on nomme quelque chose d'autre, mais pas réellement la violence. L'enjeu, pour la penser, pour la nommer, l'enjeu, c'est de la démonter. Et pour la démonter, il ne s'agit pas seulement de la décrire, bien sûr, nous avons besoin de la décrire, mais il s'agit de l'analyser. Il s'agit de la décrire et de l'analyser. Un peu comme si, c'est ce que nous espérons, comme si un jour la loi pouvait dire à ce type de violence, comme si un jour la loi pouvait dire « vu ». Cette violence a été vue, pensée, comprise, démontée, analysée, décryptée. Et ainsi, c'est une contre-attaque, puisqu'il s'agit de l'attaque globale sur une femme. Il faut que la réponse légale soit une contre-attaque à la hauteur de la gravité de l'attaque. Et si la contre-attaque n'est pas tout à fait à la hauteur de la gravité de l'attaque, elle va manquer en partie son but. Donc l'ensemble, on le voit dans le texte que nous avions proposé, c'est de penser qu'il s'agit de violences au pluriel, un ensemble de violences, qui sont articulées entre elles. Alors ce qui est évidemment capital, c'est qu'elles sont articulées entre elles. Elles ne sont pas seulement juxtaposées. Elles ne forment pas entre elles simplement une accumulation. Elles sont pensées les unes par rapport aux autres. Je vais reprendre le terme de stratégie. Ce sont des violences qui s'articulent dans une stratégie que nous devons reconnaître. Une stratégie qui comporte une logique interne. Cette logique interne, c'est de dominer pour détruire. Donc, c'est un mix de domination et de destruction. L'enjeu ultime, c'est de la destruction. Le mode pour y parvenir, c'est de la domination, et on le voit très bien dans les assassinats, c'est qu'à un moment donné, quand la domination a peur de ne plus pouvoir s'exercer, elle accélère son histoire interne pour aller jusqu'à son but qu'elle dévoile par l'assassinat. Il s'agit donc d'une stratégie globale. Et il me semble important que nous répondions avec une arme globale contre une stratégie globale. Et on pourrait dire encore que pour l'auteur de ce type de violence, il utilise la relation intime, ou plutôt la vie de couple, en fait comme un mode opératoire. Donc ce ne sont pas des violences, on pourrait dire, dans le couple. C'est le couple qui est utilisé, la vie de couple, qui est utilisée comme mode opératoire pour exercer des violences jusqu'à la destruction. Ce sont aussi, on a pu le réentendre tout à l'heure, ce sont des violences particulières puisqu'elles se déroulent dans le quotidien, mais là encore, je vais reprendre cette articulation, elles ne se déroulent pas seulement dans le quotidien, elles utilisent le quotidien comme mode d'exercice de la violence, ce qui est plus complexe, plus raffiné. Je voudrais donner un certain nombre d'exemples. À propos des violences psychologiques, la dévalorisation qui a pour but de créer un doute sur soi-même, ce doute sur soi risque d'affaiblir, risque aussi de mettre en danger. La mise en danger va produire d'autres effets, et ainsi de suite. Donc il va y avoir une sorte de cascade entre les violences exercées et les effets produits. Le fait d'empêcher de dormir. L'homme qui prétend vouloir discuter, ça peut être présenté comme ça, pendant des heures et des heures, pendant de nombreuses nuits, en réalité, ce qu'il cherche à faire, c'est provoquer un état de fatigue et d'épuisement en empêchant de dormir. Si ça dure très longtemps, il peut y avoir un moment des situations d'épuisement tel que ça peut ressembler, ce n'est pas dépressif, mais ça peut ressembler de l'extérieur à une dépression, alors que ce n'en est pas une. La dame peut finalement être hospitalisée, ne serait-ce que 15 jours. Si c'est en psychiatrie, monsieur va utiliser cela comme une menace en lui disant « Maintenant, tu ne peux plus partir, parce que si tu pars, tu n'auras pas les enfants, et tu n'auras pas les enfants parce que tu as été 15 jours en psychiatrie. Mais ce que je ne précise pas, c'est que si tu as été 15 jours en psychiatrie, c'est parce qu'il y a un plan qui a fonctionné. C'est donc un plan. » On voit que, à la limite, la menace peut être suffisante et fonctionner, et à ce moment-là, elle va être utilisée comme une contrainte au quotidien. Donc il peut y avoir là des violences physiques ou pas. On est bien dans une situation de violence conjugale, stratégique, organisée. Ce sur quoi nous avions beaucoup insisté, c'est à propos de l'état de faiblesse. Nous avons beaucoup insisté sur l'idée que dans la violence conjugale, l'homme violent va chercher à produire un état de faiblesse. Ce n'est pas qu'il abuse d'un état de faiblesse préalable, parce que cet état de faiblesse préalable n'existe pas. Il va produire, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres violences dans l'histoire. Ça, c'est autre chose. Mais l'état de faiblesse proprement dit dont il abuse, c'est un état de faiblesse qu'il va chercher à produire. Et ce qu'il faut bien montrer, c'est ça. C'est que l'abus de faiblesse vient de la production de la faiblesse, de la production de l'épuisement. En ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, il est contrecarré sans cesse, il va être limité sans cesse, et c'est pour ça, évidemment, que si au moment d'une séparation, d'ailleurs il ne faudrait pas parler de séparation, il faudrait davantage dire que madame s'enfuit, qu'elle se sauve, quand on dit un contexte de séparation, non, c'est un contexte de fuite, c'est un contexte de sauve-qui-peut, c'est pas une séparation au sens classique du terme. À ce moment-là, si jamais le juge aux affaires familiales va dans le sens de ce qu'était déjà l'atteinte à l'exercice de l'autorité parentale, on risque d'avoir quelque chose de catastrophique. Nous pensions aussi que si la violence conjugale est reconnue dans cette articulation de violence, lors de certaines auditions, rien n'empêche aussi de poser des questions sur l'organisation financière, sur d'éventuelles spoliations, sur d'éventuelles limites à pouvoir se soigner, sur le contrôle de l'accès à la salle de bain, etc. Et à ce moment-là, je crois qu'au travers de ce type d'audition qui aurait intégré la complexité, cette articulation interne, on verrait justement apparaître la logique de la violence. Alors que si tout est uniquement focalisé sur les coups, c'est à la fois capital et en même temps ça peut se retourner, ça peut servir à fabriquer du doute. Ça ne devrait pas, mais ça peut servir. Alors que si on voit cette articulation entre les coups, entre les violences physiques, les violences psychologiques, la dévalorisation et les diverses atteintes que j'ai évoquées tout à l'heure, et si l'audition est bien menée, je crois qu'à ce moment-là, il y aura justement ce phénomène où apparaît l'ensemble. Et si l'ensemble apparaît, peut-être aussi que la dame se sentira, au moment de l'audition, plus libre de dire exactement ce qu'elle subit. En ce qui concerne... il y a deux difficultés particulières. C'est que, à l'intérieur de l'ensemble de ces violences, nous savons, il n'y a pas que les atteintes sexuelles, il y a aussi les violences sexuelles qui sont des viols, et évidemment, on va se poser la question de savoir, est-ce que, si nous pensons en termes de délits spécifiques, est-ce que nous affaiblissons la procédure que la dame peut lancer pour viol? Donc, évidemment, c'est une difficulté. Mais... l'enjeu, en fait, ce sera d'articuler, là encore, de contre-articuler, d'articuler les procédures qui peuvent être lancées pour un délit, les procédures qui peuvent être lancées pour crime. Ce sera la dame de choisir selon ce qu'elle peut faire à un moment donné de sa vie, selon ce qu'elle veut faire. C'est elle qui choisira. L'important, c'est qu'elle ait juste que ce choix soit possible. Et en ce qui concerne l'assassinat, je pense que si nous voulons prévenir les assassinats qui sont en bout de course de ce type de violence, il faut que nous puissions davantage penser en amont le délit spécifique. Et ainsi, les menaces de mort seront enfin prises au sérieux par un certain nombre de professionnels. Donc, il s'agit de penser le délit pour prévenir ce crime-là.